Une grande histoire des savoirs scientifiques, 5 siècles sur la manière de faire, de pratiquer, d'énoncer les connaissances et le travail exceptionnel qu'a réalisé un collectif d'auteurs afin de replacer l'activité scientifique dans son contexte historique, politique, économique et culturel. La Tête au Carré va consacrer jusqu'en février 3 émissions à cette histoire des sciences et des savoirs qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Premier volet donc dans un instant pour nous emmener de la Renaissance aux Lumières et vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Les mystères de la planète naine Cérès se lèvent les uns après les autres et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. La sonde Dawn de la NASA est de plus en plus près de Cérès. On en sait donc plus sur les mystérieuses taches blanches, mais aussi sur son histoire. On vous dit tout, on est comme ça dans un instant pour la une.
Voilà pour le sommaire de cette nouvelle Tête au Carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée par François Mercier avec Carole Sauvage.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Une histoire des sciences et des savoirs, c'est donc le dossier dans un instant avec mes invités, les historiens des sciences Dominique Pestre et Stéphane Van Damme. Bonjour à tous
bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Bienvenue Stéphane Van Damme. Dans cette grande histoire des sciences, il y a le point de départ, la Renaissance. Pourquoi est-ce que vous commencez à cette époque ?
Parce que c'est sans doute le moment où les pratiques et l'héritage médiéval commencent à être remis en question. Et donc c'est sur la base de cette interrogation autour de la rupture qu'introduit la Renaissance que nous avons voulu commencer.
Oui. Dominique Pestre, la figure du savant, on va beaucoup en parler avec vous. Elle a évolué bien sûr au fil des siècles. À quel moment on commence à parler des savants et des scientifiques ?
Ben, on parle des savants avant de parler des scientifiques. Les savants, fin 18e j'imagine, ça c'est assez fréquent. Avant, non. Et les scientifiques, dans le second 19e siècle, on commence à employer le vocabulaire, mais savant, on va rester jusqu'au moins à la Seconde Guerre mondiale.
On verra quelle sera la figure justement du savant dès cette époque, et on va se retrouver donc dans quelques minutes pour explorer donc le premier tome de cette histoire des sciences et des savoirs, depuis la Renaissance jusqu'aux Lumières. La sonde Dawn de la NASA est actuellement en orbite autour de la planète naine Cérès, dans la ceinture principale d'astéroïdes, et petit à petit les résultats nous arrivent. 2 publications dévoilées hier dans la revue Nature nous montrent que ce très gros astéroïde a beaucoup de choses à nous apprendre sur notre système solaire. Pour en parler, nous sommes en ligne avec vous, Benoît Carry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, et puis dans ce studio, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
2 publications, beaucoup de questions Philippe, qui trouvent enfin des réponses sur Cérès.
Oui, 2 publications pour 2 découvertes différentes, mais qui pointent vers le même but. Alors la première raconte qu'il y a Cérès est constellé de petits points blancs, de zones blanches.
Oui. On a mystérieuse tache blanche.
Cette tache blanche dont une était énorme au milieu d'un gros cratère.
Ouais.
Alors il y a eu des analyses spectrales qui ont été faites grâce à la sonde, c'est ce que les astronomes attendaient. Et on a découvert qu'il y a des minéraux qui sont hydratés. Donc ça veut dire en gros que comme ces taches blanches sont la plupart, en grande majorité associées à des cratères d'impact, ça veut dire que ça a été excavé et qu'on voit un petit peu ce qui se passe un peu en dessous de la surface et c'est ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'il y a certainement de grandes quantités d'eau gelée, enfin grandes quantités, 25% sur l'ensemble de Cérès, c'est à peu près ce que les astronomes attendaient. C'est très intéressant. La 2e publication, elle fait état de la découverte d'ammoniac. Alors là, c'est un peu plus surprenant et encore plus intéressant, je dirais. Parce que l'ammoniac, pour qu'il soit glacé et inclus dans une planète comme ça, il faut qu'il se trouve à des températures extrêmement basses, qui correspondent à une zone du système solaire où Cérès ne se trouve pas actuellement. Cérès est entre Mars et Jupiter. Il fait froid, mais il fait trop chaud pour qu'il y ait de l'ammoniac gelé. Donc ça veut dire que probablement, cet ammoniac s'est condensé beaucoup plus loin et que Cérès donc s'est formé au-delà de l'orbite actuelle de Saturne, voire de Neptune, et que par le jeu gravitationnel des planètes qui ont changé d'orbite il y a à peu près 4,5 milliards d'années, elle a été propulsée dans le système solaire interne entre Mars et Jupiter. Voilà.
Benoît Carry, vous faites partie des co-découvreurs des fameux geysers à l'origine des taches blanches. Comment vous expliquez que la sonde Dawn ne voit pas des geysers mais plutôt des fumerolles aujourd'hui ?
En fait, au moment où on a découvert les geysers autour de Cérès, c'était en 2013, et Cérès était plus proche du Soleil. Et il faut bien voir que ce qu'on interprète comme le mécanisme qui est à l'origine de ces geysers est simplement le chauffage par le Soleil. Donc plus vous êtes près du Soleil, plus il fait chaud à la surface, plus vous avez donc de l'énergie en fait pour faire un gros geyser. Donc nous avions détecté ces geysers fin 2013. Le CRS est ensuite passé au plus près du Soleil. Et au moment où la sonde Dawn est arrivée vers CRS, c'était à peu près au moment où CRS était à 2,8 unités astronomiques du Soleil, c'est-à-dire 2,8 fois la distance à la Terre. Et c'est la distance à laquelle les comètes commencent à ne plus avoir d'activité. Donc on va dire qu'il n'y a pas suffisamment de chauffage du Soleil pour voir des gros geysers.
Donc ce qu'on voit maintenant, ce ne sont plus les geysers, mais des traces blanches qui sont des sels. Comment se forment-ils ?
Alors vous avez effectivement, comme disait Philippe, des réservoirs en sous-sol d'eau qui ont, donc c'est de l'eau salée. Hein. Et à partir du moment où le geyser sort à la surface, vous avez exactement comme sur les geysers sur Terre, des dépôts de minéraux. Donc là c'est du sel au lieu de minéraux, à la sortie du geyser.
Et donc c'est ce qui reflète la lumière et c'est ce qu'on peut voir. Est-ce que toutes les taches qu'on voit aujourd'hui correspondent aux endroits où vous aviez vu, vous, les geysers ?
Alors non, depuis la Terre, donc en 2013, nous avions vu a priori deux endroits qui dégazaient très fortement, donc deux sources de geysers. Là, quand on voit la carte faite avec la sonde Dawn, on voit que la surface est constellée de plein de petites taches qui ne sont pas forcément toutes actives. Hein. S'il y a eu un dépôt, ça peut être il y a longtemps. Mais une des taches, qui est effectivement celle au centre du gros cratère, correspond parfaitement à une des taches que nous avions vues. Et puis, petite surprise, donc une des taches qui correspondait donc à un gros geyser, en tout cas les deux articles publiés ce matin n'en parlent pas vraiment, donc je ne sais pas si c'est très actif. Et par contre, la vraie surprise, c'est qu'il y a une des zones pour lesquelles il n'y avait pas d'activité, qui cette fois-ci en présente une, et en faisant deux, trois petits calculs là à midi, je me suis rendu compte qu'à l'époque où nous avions détecté les geysers, cette zone-là était en hiver. Mmh. Si vous voulez, c'est une zone en haute latitude, un peu comme la France, à plus de 45 degrés. Et au moment de nos observations, le ciel était dans l'hémisphère sud. Et là, maintenant, c'est l'été. Donc, il fait un peu plus chaud. Et c'est possible que cette zone qui était inactive il y a deux ans, soit maintenant active.
Donc, ça dépend des saisons, en fait. Hein. Également sur les astéroïdes, Philippe.
Hein. Oui, il y a une inclinaison de l'axe de rotation. Et malgré leur éloignement, là, on dit que Cérès est à peu près au plus loin du Soleil sur son orbite, qui est elliptique, rappelons-le. Ce ne sont pas des cercles. Donc, la planète se rapproche et puis s'éloigne. Là, elle est un peu plus loin. Mais il y a, de toute façon, un hémisphère qui est en été et un autre qui est en hiver. Et donc, celui qui est en hiver est moins ensoleillé et plus froid donc, que l'autre, malgré l'éloignement.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années pour que les planètes, comme ça se met à bouger comme dans un jeu de billard?
Alors j'imagine que j'ai 30 secondes pour vous le dire. Donc il y a eu un jeu de billard, c'est-à-dire que le système solaire n'était pas complètement formé. Les grosses planètes comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune étaient là. Et elles dominaient tout un tas de petits corps, comme Cérès, comme Pluton, comme d'autres, qui se sont formés assez loin. Et par le jeu de leurs influences gravitationnelles, ces planètes se sont ont migré sur leurs orbites. Certaines se sont rapprochées du Soleil, d'autres se sont éloignées. Et Neptune, notamment, s'est éloigné et à un moment donné a perturbé tous ces petits corps qui étaient très lointains. Certains ont été éjectés, repoussés encore plus loin. D'autres sont arrivés. Une grande partie sont arrivés entre Mars et Jupiter. Et ce qui est étonnant, c'est que le modèle qui décrit ça, qu'on appelle le modèle de Nice, de l'Observatoire de Côte d'Azur, où se trouve Benoît Carrie, postule que des corps de la taille de Cérès, 950 km de diamètre, sur 1000 qui auraient été envoyés entre Mars et Jupiter, il devrait en rester un. Alors Cérès est peut-être celui-là. Ça serait très beau en tout cas, mais il est probable qu'il y ait cette origine lointaine et que ça valide du même coup ce modèle de Nice qui raconte les tout premiers balbutiements, les tout premiers déplacements de nos planètes.
Benoît Carrie, dernière question. Est-ce que Dawn restera assez longtemps proche de Cérès pour qu'on ait une chance de photographier de beaux geysers ?
Ça va être plus une décision politique de la part de la NASA, puisque conserver une sonde en orbite comme ça, ça a un coût. La mission nominale devrait se terminer d'ici 6 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et pour attendre de revenir à un moment où Cérès se rapproche du Soleil, son plus proche passage à son périhélion, sa distance la plus proche, c'est en avril 2018. Donc ça veut dire une extension de mission de quelque chose comme 2 ans.
Ouais.
Donc la question va être, est-ce que la NASA veut financer tout ça, en fait attendre ou pas?
Ce serait spectaculaire à regarder?
Ah, il y a des chances, oui.
Bon, mais on espère alors.
Merci beaucoup Benoît Carrie pour vos explications. En attendant, les clichés, on peut les voir sur le site de Ciel et Espace, Philippe.
Oui, absolument, j'ai mis en ligne l'article tout à l'heure.
Ouais. Et on peut également signaler aujourd'hui l'ouverture des candidatures pour le prix Ciel et Espace du livre d'astronomie. Ça commence aujourd'hui.
Ça commence aujourd'hui, mm-hmm. c'est jusqu'au 15 janvier. Alors, tout ce qui est écrit sur l'astronomie et sur l'espace peuvent postuler, évidemment. Le prix sera décerné et remis au mois d'août prochain, mm-hmm. lors du Festival d'astronomie de Florence dans le Gers.
Bon, ben, toutes les informations.
Sous la présidence d'un scientifique que vous connaissez certainement très bien, qui s'appelle Roland Lehoux, voilà. qui est astrophysicien au CEA.
Et qui s'occupe des utopiales, on en parlait régulièrement. Absolument. Au dernier numéro à Nantes. Merci beaucoup, Philippe Hénarejos. Toutes les infos donc sur le site de Ciel et Espace.
Dans les coulisses de la COP21, avec reporter.net.
Allez, ça se termine quasiment. La COP21, Hervé Kempf avec nous depuis le Bourget au téléphone. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Alors nous sommes en plein dans le feu des derniers jours. Quelle est l'ambiance là autour de vous ?
L'ambiance effectivement stressée, quasiment la salle de presse est pleine, les médias et les télés se préparent et surtout dans les salles de réunion, ça continue à discuter. Les diplomates ont passé pour la majeure partie d'entre eux la nuit blanche, ils ont recommencé à travailler, enfin ils ont travaillé quasiment toute la nuit. Mmh. On attend le texte à 15h, mais certaines rumeurs disent qu'il pourrait être retardé vers 20h, on ne sait pas, on va voir, mais je pense qu'on est vraiment dans le dernier jour de l'accord de Paris.
Alors je sais que vous n'aimez pas vous exprimer à l'avance, Hervé, mais quand même, est-ce que ce calme apparent laisse présager un texte quelque peu audacieux ou pas ?
Audacieux, non, ça laisse, je serais très étonné qu'il n'y ait pas d'accord de Paris. La diplomatie française avait très bien préparé ça, incontestablement, c'est reconnu par tout le monde. Le processus est clair, les textes sont sur la table, la méthode est bonne. Mmh. Alors on a en revanche un texte qui est très difficile à comprendre. Si on le compare par exemple à la Convention sur le changement climatique de 92 ou au protocole de Kyoto de 97 qui étaient des textes lisibles, là on a un peu une sorte de bouillie de chat. Sur la table, difficile de savoir ce qui va en ressortir puisque à chaque point principal, il y a une option qui est très bonne et puis une option qui est très mauvaise. Donc on ne sait pas très bien ce qui va ressortir du chapeau. Une chose quasiment certaine, mais rien n'est jamais certain, l'objectif de réduire le réchauffement à moins de 1,5 degré centigrade devrait être dans le texte, et ça c'est quand même quelque chose d'important. Mmh. Une option aussi sur le fait qu'on s'engagerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050. Mmh. Ça serait là aussi très nouveau, mais je ne vous le garantis pas du tout. Et puis, une bagarre sur les finances, et là, ça va être la grande inconnue.
Ouais, et comme d'habitude, tout va se résoudre sur les dernières minutes quasiment, hein, avec des négociations âpres.
La journée va être chaude, oui, je pense.
Merci beaucoup Hervé, bon courage à vous également. Et puis on suit, je rappelle, la COP21 sur le site reporter.net. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le lait produit la nuit par les vaches ferait mieux dormir que celui produit dans la journée. C'est le résultat étonnant d'une étude sud-coréenne qui a réussi à démontrer que le lait de vache du soir était plus riche en tryptophane et en mélatonine, appelée également hormone du sommeil. Après avoir administré différents laits à deux groupes distincts de souris, les chercheurs ont observé que les rongeurs nourris par le lait du soir se déplaçaient très peu, étaient moins craintifs et s'endormaient plus facilement que leurs pairs ayant ingurgité du lait journalier. Et puis Mona Lisa n'était peut-être pas Lisa Gherardini. Le scientifique français Pascal Cotte affirme avoir découvert un second portrait caché derrière celui que l'on connaît aujourd'hui grâce à une caméra projetant des éclairages différents sur le tableau. Il a réussi à observer chaque coup de pinceau de l'artiste, laissant découvrir un tout autre visage, au regard fuyant et aux traits plus fins. Si le chercheur français confirme que ce visage correspond bien au portrait de Lisa Gherardini, femme d'un marchand de soie florentin, qui est alors la Joconde, cette femme peinte par-dessus. Le mystère reste toujours entier. En attendant, vous pouvez découvrir sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, une histoire des sciences et des savoirs, c'est le premier volet de cette trilogie dans un instant.
Pas besoin d'être Archimède pour comprendre notre alchimie. Toi et moi, c'était écrit, l'amour nous possède. Embrasse-moi, prends-moi la main, ton sourire si plein d'étoiles me rend fou, me fait du bien, l'amour s'accavale. Je n'ai que mon cœur à t'offrir. Pour te séduire, le bonheur ne s'achète pas, ne s'explique pas. Pas besoin d'être Crésus, t'es ma prime et mon bonus. Je te ferai pas passe. Soit ça casse, mais c'est fatal. C'est l'amour en cavale. Les câlins. D'être donjon, de te faire du boniment, tel seul grain que je veux moudre, l'amour c'est le coup de foudre. Pas besoin de théorème pour comprendre que l'on s'aime, pas besoin d'être Archimède, l'amour c'est bohème. C'est fini les compromis, l'amour c'est la vie. L'amour c'est comme ça. Pas besoin d'être Saint-Ex pour survoler nos complexes. Je te dessine des moutons. L'amour c'est flonflon.
Archimède, Thomas Dutronc.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et c'est un travail monumental que viennent de publier les éditions du Seuil avec 3 volumes sur l'histoire des sciences et des savoirs qui nous emmènent de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. C'est donc la première émission d'une série de 3 que nous consacrons à cette fresque historique avec mes invités. Premier tome, Dominique Pestre et Stéphane Vandamme. Dominique Pestre, vous êtes physicien, historien des sciences, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et c'est vous qui avez dirigé justement les 3 tomes de cette collection. Stéphane Vandamme, vous êtes historien, professeur d'histoire des sciences à l'Institut universitaire européen à Florence, et vous avez supervisé donc le premier volume de cette collection. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions franceinter.fr et le mot clé l'attaque. Dominique Pestre, donc c'est un travail très ambitieux évidemment que vous avez réalisé, 3 tomes pour replacer les sciences et les techniques, les savoirs dans des contextes différents de chaque époque. Contribution de combien? 70 chercheurs à peu près?
Oui, à peu près 70, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est 70 ouais. À peu près.
C'était quoi l'idée de départ alors pour vous? Qu'est-ce que vous vouliez montrer exactement?
C'était raconter une autre histoire, c'est-à-dire ouais. pas une histoire où on saurait d'avance que c'est la science et on montrerait nécessairement sa grandeur intrinsèque, en gros, ce qui est un vrai projet, c'est-à-dire raconter les exploits de créativité ou raconter l'évolution des idées, des concepts, c'est très important. Mm-hmm. Mais nous voulions faire une histoire qui n'a pas été écrite sous cette forme, qui était complètement différente, qui était d'essayer de saisir ces sciences dans leur pratique quotidienne, dans leur milieu, dans leur lieu, dans leur épaisseur, quoi, on va dire, dans leur épaisseur sociale. Et donc, d'entrer par d'autres chemins. Par exemple, on s'était dit quelles sont les grandes multinationales des savoirs à chaque époque. Alors, par exemple, on peut dire à ce moment-là, on va en parler, c'est peut-être les jésuites. Peut-être que les jésuites, c'est la grande multinationale des savoirs. Ou la Compagnie des Indes britannique ou néerlandaise. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est peut-être la Banque mondiale, c'est peut-être... Vous voyez. Donc, en se posant la question comme ça, on saisit un objet qui est moins défini que science, et c'est pour ça qu'on met science et savoir. Et de cette façon, on a beaucoup d'histoires à raconter. En fait, ça permet de raconter énormément d'histoires extraordinaires.
Et qu'est-ce qui distingue la science des savoirs, alors, justement?
Eh ben, la position que nous avons adoptée, c'est que c'est pas nous qu'allons décider parce qu'il n'y a pas 2 personnes à la même époque qui le définissent de la même façon. Donc, on va rester, nous, relativement agnostiques sur ça. Si quelqu'un dit ça, c'est la science et ça, c'est un savoir et donc c'est moins bien, c'est sa manière à lui de dire, mais il y aura quelqu'un qui dira le contraire. Donc, a priori, justement, l'idée, on aurait presque pu écrire science et savoir avec des tirets. C'est cet ensemble-là que nous voulons saisir, sans a priori dire nous savons ce qu'est l'un et nous savons ce qu'est l'autre.
On parlera de savoir et de savoir-faire aussi d'ailleurs.
Ah bah bien sûr,
route,
les savoirs pour nous, il n'y a pas long d'un doute, ça inclut des pratiques, des savoir-faire, c'est évident.
Stéphane Van Damme, à la Renaissance, qu'est-ce qui marque justement le passage à l'époque moderne? Alors vous parliez de rupture tout à l'heure sur le sommaire.
Oui, alors c'est vrai que ce qui caractérise... La manière d'inventer de nouvelles pratiques savantes ou scientifiques à partir du XVIe siècle, même du XVe siècle, c'est d'abord une remise en cause de l'héritage, on va dire, scolastique, c'est-à-dire de la définition antique et médiévale des sciences, qui était avant tout centrée sur ce qu'on appelait la philosophie naturelle. L'idée étant de d'inventorier, si on veut, les phénomènes naturels dans une nature qui était comprise comme finie, comme connue, d'une certaine manière. Avec la Renaissance, ce qui va se jouer, c'est la légitimation, d'une certaine manière, d'une logique de la découverte. C'est-à-dire qu'on considère que la conception de la nature n'est plus établie, n'est plus close, mais qu'elle mérite justement un nouvel inventaire. Et pour ça, il y a une raison toute simple, c'est d'abord l'élargissement du monde.
Oui, bien sûr.
Il y a les grandes découvertes.
Oui. Les grands voyages,
et
évidemment.
Voilà, et donc Aristote, comment confronter les grandes autorités léguées par l'histoire, par les grandes institutions universitaires, avec de nouveaux phénomènes naturels que l'on découvre à l'occasion des grandes découvertes.
Ouais. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi dans cette période-là, vraiment Renaissance, siècle des Lumières, c'est qu'on va inventorier, on va classifier énormément, donc c'est aussi tout un nouveau regard qui est porté sur la science, Dominique Pestre.
Oui. Je pense que moi, ce qui me frappe dans ce premier volume, c'est qu'est-ce que l'ouverture du monde a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait au savoir? Et ça, c'est une chose essentielle. C'est-à-dire, quand on raconte, c'est pour ça que nous disons, nous revenons souvent sur le thème, l'histoire classique telle qu'elle m'a été enseignée, bon, c'était encore de dire qu'il y avait une, vous ouvrez les guillemets, révolution scientifique. C'est-à-dire, il s'était passé quelque chose,
oui.
Et peut-être Galilée était celui qui avait fait la révolution.
C'était la grande figure, en tout cas.
Elle était conceptuelle, et à partir de là commençaient les vraies sciences. Vous comprenez? Là, il y avait une véritable idée qu'on savait ce que c'était. Quand on regarde ce qui se passe là, on se rend compte que, non, c'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, même si on est fidèle, et ça, mon ami Stéphane saura ça mieux que moi, mais si on regarde le vocabulaire, les mots sont toujours extrêmement importants, comment parlent les gens. Et ceux qui emploient le mot de scientia, le mot latin qui, sur lequel est construit science, il signifie pas Galilée, il signifie pas la physique, il signifie pas la dynamique, il signifie pas la mécanique newtonienne, il signifie complètement autre chose, il signifie la théologie, par exemple. Bon, voilà, c'est pour ça que nous ne pouvons pas d'avance définir ce qui est la science et ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'à ce moment-là, ce dont il faut parler, c'est de la théologie, c'est de l'histoire naturelle, c'est des grandes découvertes, c'est... voilà.
Stéphane Van Damme.
Oui, c'est justement ça. L'idée de départ, c'était de ne pas partir d'un postulat, on va dire, continuiste. C'est-à-dire considérer que tout s'inventait dès la Renaissance, et en particulier les sciences d'aujourd'hui, mais plutôt d'entreprendre une forme d'archéologie, une forme de contextualisation un peu radicale pour faire ressortir l'ancienneté, si j'ose dire, de ces sciences de l'époque moderne. Alors plutôt sciences de l'époque moderne plutôt que sciences modernes, d'une certaine manière. Et ce décalage permettait vraiment de montrer qu'il y avait une coprésence. D'un côté, des savoirs de la tradition, on va dire, comme la théologie, par exemple, et puis de l'autre côté, ou de l'histoire naturelle, et puis de l'autre côté, des savoirs que l'on qualifierait aujourd'hui de modernes, plutôt du côté d'une culture de l'invention, de l'innovation, par exemple, donc avec l'astronomie, les cultures expérimentales, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire ne pas préjuger de ce qui est scientifique, mais de voir en situation comment les acteurs redéfinissent c'est ce passage de savoir aux sciences. Ouais.
On a aussi le sentiment que les choses se structurent mieux, Dominique Pestre, que les méthodes sont établies et qu'on va expérimenter. C'est aussi ce qui fait peut-être la nature de la science à ce moment-là.
Alors, même chose, ça caractérise très bien un morceau de ces savoirs ou de ces sciences, comme vous voulez. C'est ce qui se passe au laboratoire, c'est ce qui se passe dans les académies. On se met, des gentlemen se mettent autour d'une machine, ils font une expérience que nous appelons maintenant une expérience. Ouais. Faire une expérience de laboratoire. Alors là, vous avez raison. Mais beaucoup de choses se déroulent dans des espaces complètement différents. Ouais. Et là, par exemple, si on peut dire...
Il y a encore... beaucoup de discussions entre l'espace public et l'espace privé du laboratoire.
Absolument.
Ce sont des sujets de controverse aussi.
Oui, bien sûr. Il y a, évidemment, vous imaginez bien que qui au milieu du XVIIe siècle, produit des savoirs secrets dans des espaces fermés et dont ils prétendent que c'est la vérité. Ça s'appelle des sectes religieuses.
Oui, c'est vrai.
Non, à partir du moment, absolument, à partir du moment où les académies commencent à faire ça, elles sont accusées. Mm-hmm. Hobbes accuse la Royal Society anglaise, le grand philosophe Hobbes, l'accuse d'être une secte, évidemment.
Quelques grandes figures justement de la science de cette époque.
Aujourd'hui, le français Descartes proclame les règles de la méthode. Et l'allemand Leibniz met au point des formes de calcul qui sont un pas capital. Mais l'anglais Bacon a codifié déjà les règles complexes de l'expérimentation. Et toute curiosité est venue des précurseurs de la Renaissance. Les premiers instruments scientifiques apparaissent. Œuvre de l'esprit humain, ils en multiplient les possibilités.
Voilà une illustration de ce qui se passe à l'époque, Stéphane Vandamme. Mais c'est un bon résumé aussi, il y a quelques grandes figures.
On voit bien le rôle de la science comme moteur dans un grand récit d'émancipation. Et le rôle de ces acteurs comme presque le rôle les figures héroïques de cette grande histoire des sciences. On a besoin des grands hommes pour identifier les progrès et la marche des sciences vers la modernité d'une certaine manière. Évidemment, tous ces grands récits ont été à la fois remis en question, mais se sont un peu aussi désagrégés dans les dernières décennies, d'où effectivement la volonté de les questionner et aussi de tenter une autre histoire sur d'autres modèles. D'où le terme d'ancien régime des sciences plutôt que de révolution scientifique.
Dominique Pestre.
Oui, j'ajouterais. En fait, ce qui est intéressant, c'est cette histoire héroïque autour des grands noms. Elle n'existe pas depuis le début. C'est une construction a posteriori.
Alors c'est ça.
Le XVIIIe siècle commence à la
construire. La figure mythique du savant, elle n'existe pas à l'époque.
Non, alors on va dire c'est un petit peu plus compliqué. Prenons un exemple pour être simple, pour être concret et raconter une histoire. Si vous prenez Galilée, d'accord. Tout au long du XIXe siècle se construit la figure de Galilée dont nous considérons qu'elle est déjà celle du XVIIe, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire par exemple Galilée au XIXe siècle, dans le contexte français, post-révolutionnaire et qui où la bataille a lieu contre l'Église, etc. Galilée est fabriqué comme un anticlérical.
Oui.
C'est le 19e qu'invente un Galilée anticlérical et qui transforme le procès en un procès de la raison contre la religion.
Et alors à l'époque, quel est son statut de scientifique?
Il est tout à fait important, si j'ose dire, mais encore une fois... il est inscrit dans les paramètres, qu'on va dire, de la reconnaissance d'Ancien Régime, c'est-à-dire l'homme de cour. Et ce qui est intéressant, c'est que ses adversaires, les jésuites, et ça, ça apparaît très nettement dans le chapitre sur la culture expérimentale, sont probablement les principaux protagonistes, si j'ose dire, de l'avènement de la culture expérimentale mathématisée. Donc c'est très intéressant parce que on voit qu'en contextualisant, on complexifie un petit peu le récit, les oppositions classiques et traditionnelles entre science et religion.
Christophe sur Twitter demande comment justement la religion a perçu la perte de son leadership au profit de la science à cette époque.
Alors, la religion, c'est pas... Il faut voir que ce que nous on appelle religion, on peut probablement qu'à l'époque moderne, la religion est aussi associée à une autorité intellectuelle, c'est-à-dire via l'université, l'Église, et en défendant évidemment la théologie comme science suprême, si j'ose dire, hiérarchise en fait tous les savoirs. Donc elle a, c'est comme si aujourd'hui, si vous voulez, le pape réordonnait le monde scientifique et le monde des savoirs. Aujourd'hui, on vit plutôt sur le mode de la séparation entre science et religion. À l'époque moderne, c'est quasiment impossible. Donc effectivement, on négocie avec les autorités religieuses.
On a un peu de compte à rendre aussi.
Oui, exactement.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette discussion et les messages, bien sûr, franceinter.fr, le mot-clé, l'attaque, pour cette histoire des sciences et des savoirs.
Des années hole. Sensation d'être grande au cœur de la démence. Mon cœur et mon corps ne savent plus trop. Mes souvenirs sont d'un temps bien plus fleuron, d'un temps d'un aplomb plus haut.
Rien de moi et la voix de Claire de Namur.
Vespucci, Colomb, Vasco de Gama, Magellan, Bougainville, Cook, La Pérouse sont autant de noms restés célèbres pour les voyages qu'ils ont accomplis à travers les océans. Ils sont à jamais considérés comme les pionniers de la cartographie moderne et découvreurs de la Terre dans son ensemble. Découvrir une nouvelle route, un nouveau passage, un nouveau continent, c'est repousser les limites des cartes, bien sûr. Mais pour une nation, c'est aussi être la première à en exploiter les richesses. Plus tard, ce sera pour la science et son prestige éclatant.
Pour évoquer l'histoire des sciences et des savoirs de la Renaissance aux Lumières, cet après-midi, Dominique Pestre et Stéphane Van Damme, les invités de La Tête au Carré. Dominique Pestre, on est à un moment clé, là, justement. On découvre le monde, les territoires s'agrandissent. On peut parler déjà d'une mondialisation et d'une diffusion des savoirs.
Alors d'une mondialisation, oui, on pourrait dire que c'est la première, parce qu'il y en a des séries comme ça. Nous en avons, nous, au moins parlé de deux ou trois, au minimum. Oui, il y a une... Mais alors, est-ce que c'est une diffusion des savoirs? C'est là où on voulait aussi insister sur le point, c'est un peu plus compliqué que ça. On ne veut pas partir de l'idée qu'il y aurait eu... Tout serait passé chez nous, hein. Entre l'Italie, l'Angleterre et la France, peut-être l'Allemagne, et puis on aurait tout inventé, et puis ensuite on aurait diffusé. Et dès qu'on regarde, on voit que c'est... Si vous prenez, prenons quelques exemples, l'histoire naturelle, vous prenez la géographie, vous prenez la cartographie, vous prenez l'anthropologie, vous prenez les savoirs de la pharmacopée, vous prenez les savoirs sur les humains, les savoirs des langues, vous pouvez multiplier à l'infini, d'accord ? Ce sont aussi des savoirs et des sciences très respectables, d'accord ? Si vous prenez ça, elles n'ont pas été diffusées, elles se sont réinventées dans tous les endroits où nous rencontrions d'autres peuples qui se rencontraient d'ailleurs déjà entre eux. Par exemple, je ne sais pas, dans le sous-continent indien, il y avait déjà des rencontres de cultures extrêmement différentes. Se greffent dessus, à un moment les Portugais, à un moment les Anglais, dans le sous-continent, à un moment les Hollandais. Et c'est des couches qui se rajoutent de cultures qui fait que dans ces rencontres naît quelque chose, des questions nouvelles.
Ouais. Voilà, Stéphane, dans ces grands navires, il y avait des scientifiques aussi.
Oui,
qui venaient pour là aussi collecter des choses
vrai.
De la nature.
Alors c'est vrai que peut-être qu'il faut nuancer le terme scientifique. Hein, c'est-à-dire que, comme on l'a dit depuis le début de l'émission, la science, dans sa définition professionnelle, on va dire, est très minoritaire. Hein, c'est quelques individus, quelques corps. Majoritairement, la pratique savante, la pratique scientifique, l'enquête sur la nature est une pratique qui est culturelle, donc une pratique qui est ouverte aux amateurs. Donc sur les bateaux, vous allez avoir des pilotes qui vont s'intéresser à l'astronomie. Vous allez avoir des commerçants, si j'ose dire, des gens qui sont embarqués, des soldats, des administrateurs, qui eux pratiquent la science comme un hobby finalement, et qui vont enrichir leur compte rendu, leur correspondance avec les métropoles, non seulement d'informations, mais aussi parfois d'objets, hein, d'instruments. Et donc, ils s'embarquent avec leurs instruments sur les navires, un peu comme un passe-temps, parce que les voyages sont très longs. Et ils vont devenir les correspondants des grandes académies européennes.
Et là aussi, il y a des échanges d'informations et le savoir se croise partout.
Exactement. C'est là où peut-être qu'on est passé d'une définition, on va dire, diffusionniste, c'est-à-dire la diffusion du grand récit, la révolution scientifique au reste du monde, à un récit qui est fondé aussi sur la confrontation, sur l'échange. Hein, la globalisation ou la mondialisation impose son agenda de recherche. C'est vrai que quand vous arrivez dans le monde malais, que vous inventoriez, vous avez une nature différente. Et vous la connaissez parce que vous entrez en contact avec aussi des savants locaux, si j'ose dire, hein, des élites savantes, hein, ou même des intermédiaires ordinaires, des artisans, des gens qui vont vous aider aussi à transmettre ce
savoir. Et ils sont aussi des savants.
Hein. Voilà,
ces
exactement.
Artisans rentrent dans cette catégorie. Dominique Pestre.
Oui, si on prend pensez à la pharmacopée. Vous imaginez bien que notre pharmacopée, elle est tout à fait limitée à notre région en termes climatiques, en termes de ce qu'est notre région. Vous entrez dans d'autres pays, vous avez d'autres plantes, et c'est pas nous qui allons inventorier ces plantes pour expliquer aux indigènes ce qu'ils vont faire. Évidemment, c'est ridicule. Ils l'ont déjà fait comme nous l'avons fait nous-mêmes. Donc nous rencontrons d'autres personnes qui savent comme nous, et de l'échange, eux se modifient, nous nous modifions, nous faisons d'autres catégories, d'autres... Voilà, je pense que ça, c'est le point essentiel. Et l'autre sur lequel on a beaucoup insisté dans ce volume, c'est que, en fin de compte, le commerce est la force qui entraîne derrière elle toute l'histoire naturelle, la cartographie, etc. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le navire, il y va pas simplement pour faire de la science, il y va pour ramener des produits. Ces produits, c'est de nature extrêmement différente. Il peut aller chercher des clous de girofle, des choses classiques, mais il peut aussi ramener des plantes rares. Il va ramener des tas de plantes pour la pharmacopée occidentale. Il va ramener des manuscrits.
Donc il y a le négoce qui s'entremêle intimement avec la science.
Bien sûr, le négoce fait qu'on ramène ici dans les grands lieux, comme Amsterdam, comme à Paris, à Londres, etc., dans les grands ports, on ramène toute une série de choses qu'on se met à étudier, et on les étudie parce qu'il va falloir les revendre. On fait commerce de toutes ces choses.
Alors, il y a les jésuites, qui jouent un rôle absolument prépondérant dans cette multinationale du savoir, comme vous la nommez, et puis également les diasporas, qui vont faire beaucoup aussi pour la diffusion.
Ouais. Il y a un excellent article sur les diasporas. Stéphane va préciser ça. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture, j'ai beaucoup aimé cet article. J'avais jamais réfléchi à cette histoire de diaspora. C'est de voir comment, dans un contexte de guerre religieuse et d'exclusion systématique d'élites de part et d'autre, vous avez des groupes, les huguenots français, mais vous avez les jacobites anglais ou d'autres groupes. Évidemment, il y a toujours les éternels arméniens, les communautés juives, etc. Vous avez toujours des gens qui sont en train de qui sont déplacés, etc. Et ça, c'est des facteurs de diffusion et d'acclimatation dans des espaces différents extrêmement importants.
Parce que ce sont des gens qui écrivent et qui traduisent. Donc Exactement. Du coup, évidemment, là aussi, ça ouvre des portes qui jusqu'alors étaient fermées.
Alors, c'est vrai que leur capacité linguistique, leur en font des très bons intermédiaires. Ils sont capables de négocier, hein, des passages entre plusieurs mondes linguistiques, plusieurs mondes culturels. Et ça, on voit très bien, on les voit donc très bien à l'œuvre dans, pour certains types de savoirs, les transferts technologiques, par exemple. Là, les compétences sont souvent plus incorporées, c'est-à-dire que ce sont des gens qui transmettent eux-mêmes des savoir-faire. Mais effectivement, ils vont permettre ces passages hein, d'un monde à un autre. Donc la commensurabilité, si j'ose dire, le fait, comme ça, de pouvoir mesurer hein, et transmettre et transférer des savoirs d'un espace à un autre.
Ça, ils le font de façon tout à fait consciente ou pas ?
Oui, oui, tout à fait. Oui, ouais. Oui. On peut dire qu'ils deviennent même des professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, ils sont dans les interstices hein, des mondes politiques, des empires. Des souverainetés, des droits maritimes. Donc ils arrivent d'une certaine manière à servir de possibles relais hein, quand ces ensembles sont plus ou moins bloqués hein, par des monopoles, des logiques de monopoles, des logiques de privilèges par exemple.
On se retrouve dans un instant, dernière partie de cette première exploration, grande histoire des sciences et des savoirs, de la Renaissance aux Lumières dans la tête au carré.
All the trees that we do not climb. Bridges, we're crossing our minds. Who are we fooling when we cry? When she says everything is fine over her head, clouds that look like mines. Oh, why can't she wish for brighter skies?
Transporte avec sa voix Jeanne Haddad avec Look at them à l'instant.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Dominique Pestre et Stéphane Vandamme, donc mes invités pour cette histoire des sciences et des savoirs. On part de la Renaissance jusqu'aux Lumières. Et les femmes là-dedans, Dominique Pestre, on n'en a pas beaucoup parlé. Ou Stéphane Vandamme, qui veut en discuter?
Oui,
Stéphane peut-être
Oui, alors c'est vrai que...
On n'a pas cité un nom de femme pour l'instant.
Oui, hein. Oui, tout à fait. Alors c'était une des idées du volume aussi, c'était un peu de repeupler ce monde de la science. On a parlé des artisans, mais évidemment les femmes aussi ont leur mot à dire.
Et elles ont joué un vrai rôle.
Elles ont joué un vrai rôle, tout à fait actif. Alors là encore, le fait qu'on soit sorti d'une définition professionnalisante de la science et qu'on soit passé, qu'on ait mis l'accent dans l'observation sur la pratique culturelle, fait émerger un grand nombre d'acteurs, hein, comme les femmes, hein, qui sont effectivement qui sont hors des grandes institutions savantes, hein, l'académie, l'université, mais qui sont fortement présentes dans d'autres lieux où la science circule.
Il y a des figures.
Alors, évidemment, et Émilie du Châtelet, qui traduit Newton, mais il est à noter qu'en Italie comme en France, les deux traducteurs de Newton, hein, qui introduisent Newton en langue vernaculaire, sont des femmes. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant, du côté aussi d'une compétence sociale qu'ont certaines de ces femmes, qui sont des salonnières, par exemple, et qui ont cette capacité aussi à jouer sur un mode mondain, si j'ose dire, l'échange savant. On voit très bien donc, au salon, hein, le salon, ce n'est pas un laboratoire.
C'est un lieu de diffusion.
Mais c'est aussi un lieu de diffusion, c'est un lieu de circulation, c'est un lieu de discussion.
Je pense aussi qu'elles sont extrêmement présentes dans les maisons. Puisque dans les maisons, c'est là où on fait les sciences. Si vous êtes alchimiste, vous faites toutes sortes de métiers, vous êtes chimiste tout court comme Lavoisier. Madame Lavoisier, elle est là. Ouais. Elle est là. Elle fait le travail. Elle est plus qu'une assistante.
Ce sont les femmes savantes, effectivement. Hein,
oui.
Les vraies femmes savantes.
Donc, je pense que ça, on en a plein d'exemples maintenant. Ouais. Toutes les grandes maisons de campagne anglaises dans lesquelles sont des gentlemen savants, la femme gère la maison, mais ça veut dire gérer toute l'économie. De ses savoirs, de l'atelier, des salles d'expérimentation, etc. Elle joue un rôle réel, important, évidemment occulté, mais important.
Une figure intéressante, en tout cas amusante, François Ier de Médicis, qui s'ennuie beaucoup et qui donc s'occupe avec son petit coffret d'alchimiste, mais ça tourne mal.
François Ier, c'était un personnage taciturne, au caractère ombrageux. Il avait peu de goût pour la politique et il se réfugiait souvent tout seul, ici. En fait, il avait une passion, c'était l'alchimie. Et il s'était fait aménager une pièce à laquelle on accède par un passage secret. Voilà cette pièce dans laquelle il faisait ses expériences d'alchimie. La légende raconte que cette passion pour l'alchimie conduisit François Ier de Médicis à la mort. Ayant attrapé froid au cours d'une partie de chasse, il se serait soigné grâce à une mixture distillée dans son alambic. On pense qu'elle lui fut fatale.
N'est pas scientifique qui veut, hein, un pestre. Ça finit mal parfois, ces histoires. Stéphane Van Damme, c'est vrai qu'on voit aussi, hein, durant cette période, c'est l'utilisation de nouveaux instruments. Et ça va aussi complètement modifier le cours de la science. Parce que le microscope, lorsqu'il arrive, évidemment, ça ouvre là aussi un continent nouveau. Hein.
C'est vrai que dans la culture expérimentale, on va valoriser la matérialisation des dispositifs pour faire voir un certain nombre de phénomènes naturels de manière artificielle. Hein, je ne sais pas, les sciences du mouvement vont essayer. Mais aussi, on va mettre l'accent sur l'observation, culture de l'observation, et donc sur
sur
ce qui
vivant,
est caché. Évidemment, souvent sur ce qui est caché, c'est-à-dire que à la base de l'expérimentalisme, il y a cette idée qu'il y a une partie de la nature qui nous est cachée, qu'il faut dévoiler. Le microscope, évidemment, va se charger, hein, de matérialiser cette quête, hein, pour l'invisible, alors de la mouche, enfin vous avez plein
de spermatozoïdes,
oui,
les animalcules, voilà. Par exemple, hein.
On a plein de alors ce sont des pratiques expérimentales, je sais pas si on pourrait aujourd'hui les qualifier de scientifiques, mais elles sont menées un peu partout en Europe et dans le monde occidental, si on pense aux colonies.
Ouais, la dissection aussi fait partie,
voilà,
des pratiques.
C'est ça. Alors,
hein,
c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a cette culture expérimentale, finalement, elle n'est pas simplement réservée au laboratoire, elle se retrouve dans un certain nombre de savoirs. Donc, elle est transversale, d'une certaine manière. Le théâtre d'anatomie, bien sûr, l'histoire naturelle. Voilà, il y a un certain nombre de pratiques, hein, comme l'observation, qui sont transversales et qu'on retrouve un petit peu partout. Et c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en valeur.
Et puis Dominique Pestre, autre pan intéressant, le lien entre la guerre et la science, ce qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'au fond les forces militaires contribuent beaucoup au développement en tout cas de nouvelles techniques scientifiques et au savoir scientifique, et le rôle des mathématiques aussi à ce moment-là.
Oui, parce que les mathématiques, de quoi elles s'occupent à ce moment-là? Ce qu'il faut comprendre, c'est, il faut pas avoir l'image des mathématiques, ce serait comme maintenant, c'est des gens fermés dans leur bureau et qui pensent tout seuls dans leur tête. C'est pas ça du tout, c'est complètement le contraire. Les mathématiques, c'est pas le sommet des savoirs, c'est le dernier rang des savoirs, c'est le septième rang. C'est-à-dire le dernier. Et c'est les gens qui s'occupent des choses pratiques. Les mathématiciens, ça s'occupe de l'artillerie, ça s'occupe de fortifications, ça s'occupe de l'optique. Ça s'occupe, voilà. Ils font toutes ces choses concrètes, on pourrait dire, de la maîtrise de l'espace. Ce qui permet de se déplacer dans l'espace.
Donc c'est hyper pratique, quoi.
Oui, sur les maths. C'est hyper pratique.
Lié au monde des ingénieurs.
Hein, oui, c'est en fait le monde des ingénieurs. Oui, c'est le monde des ingénieurs. Et donc, pour cette raison, comme ce sont ceux qui savent contrôler l'espace, anticiper l'espace. Vous imaginez bien que pour la guerre, c'est absolument central. C'est ceux qui vous sont utiles pour attaquer une place forte, pour la défendre, pour cartographier un territoire. Et donc ça, c'est les mathématiciens qui font ce genre de travail. Si vous avez une science qui est pratiquement opérationnelle, on va dire, si c'est utile, que vous pouvez faire quelque chose avec, la physique le fera, mais beaucoup plus tard. Elle le fera seulement au 19e siècle. Elle ne sait pas le faire à l'époque. Ça sert à rien, la physique dans ce sens, hein, si je peux me permettre cette expression. Elle sert à rien au 18e, au 16e, au 17e. Par contre, ces mathématiciens pratiques qui construisent les instruments, c'est eux qui fabriquent les instruments dont parle Stéphane. C'est eux qui font. Alors donc, ils ont une capacité d'offrir à tout pouvoir un moyen de contrôle sur le monde. Évidemment, quand vous faites la guerre, c'est tout naturel.
Donc, c'est l'art de la guerre qui est modifié aussi?
Par l'apport
des mathématiques.
Disons, l'art de la guerre est d'abord modifié par un certain nombre de changements techniques, la poudre, etc. Mais en même temps, pour s'adapter à ça, ces mathématiciens vont être ceux qui vont aider les différents types d'armées, de corps d'armées, à s'adapter à cette nouvelle situation. Oui.
Stéphane Van Damme.
Oui, alors on pourrait dire aussi que ça nourrit d'une certaine manière aussi le bagage des militaires. C'est-à-dire que l'enseignement des sciences fait partie du bagage de l'officier hein, sur le terrain. Il sait prendre des mesures, il sait calculer, il a intégré une partie de ses savoirs, de la balistique, etc. Donc il y a un va-et-vient, si vous voulez, entre c'est là où il n'y a pas d'étanchéité, si j'ose dire, entre ces mondes.
La première grande école de sciences au milieu du 18e, c'est l'école du génie de Mézières. Voilà, elle est à Mézières, c'est l'école du génie. C'est là où est Monge, où sont tous les grands mathématiciens et physiciens français de l'époque. C'est la grande école de sciences. C'est une école militaire. D'ailleurs, l'école polytechnique, si vous vous en souvenez, elle est créée en 1794 comme école militaire, puisqu'elle l'est toujours, d'ailleurs.
Histoire des sciences et des savoirs. Donc, Dominique Pestre pour ses trois volumes. Et puis, Stéphane Van Damme, donc, vous qui avez dirigé ce premier tome de la Renaissance aux Lumières. On va donc se retrouver en janvier, Dominique Pestre.
Avec plaisir. Hein,
pour le deuxième volume, Modernité et Globalisation, avant d'aborder le siècle des technosciences qui nous concerne là directement. Vous avez respecté la parité aussi dans les contributeurs de cette histoire.
Vous avez remarqué malheureusement que non, le respect n'a pas fonctionné pour les directeurs de volume.
Oui.
Mais en dehors de
mais
ça.
Mais pour les contributeurs, oui.
Ah oui, pour les contributeurs, oui.
40% de femmes, je crois.
40%, oui.
Bon, vous auriez pu faire mieux encore. Mais c'est
pas si. Nous essaierons pour la prochaine édition.
Allez, on se retrouve en janvier. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Bonjour à Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Dans un instant, affaires sensibles. Quel sera le thème aujourd'hui, Fabrice?
La tuerie de Columbine, vous vous souvenez, en 1999, et qui avait généré notamment un film documentaire de Michael Moore. Nous revenons donc sur ce drame avec, pour inviter le journaliste Johan Hufnagel du journal Libération, car Libération est notre partenaire, comme vous le savez, tous les 15 jours.
Merci, à tout à l'heure.